c'est Info Club Sandwich. Et bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 17 avril 2026, vous écoutez Info Club Sandwich réalisé par Radio Campus Amiens. Votre émission quotidienne locale et associative préférée que vous pouvez retrouver sur le site radiocampusamiens.fr, le 87.7 FM et sur le DAB+. Aujourd'hui, dans cette première partie d'émission, on va écouter un reportage réalisé par Sonia sur une exposition de photos au musée de Picardie sur le thème de l'Égypte. Son nom, Égypte éternelle, a été créé par Flore, qui est retournée sur les lieux de son enfance.
Depuis le 11 avril 2026 et jusqu'au 3 janvier 2027, l'exposition Égypte éternelle sera visible au musée de Picardie. C'est une exposition de l'artiste photographe Flore, dans laquelle elle rapporte des images de son enfance passées en Égypte. À l'occasion, je suis allée à sa rencontre et j'ai aussi pu interviewer Maya Derien, conservatrice responsable des collections art moderne et contemporain au musée de Picardie. Et donc là, on est dans les anciennes salles du musée. C'est la première fois qu'on a une artiste contemporaine qui est exposée ici. Comment vous avez eu l'idée de faire cette exposition-là ?
Alors l'idée, elle vient d'une programmation d'une saison égyptienne, donc avec ma collègue Agathe Jäger-Schmidt-Seguin, qui est conservatrice pour la partie antique de notre collection. Nous avons souhaité faire résonner deux expositions. Donc il y a une exposition autour des objets archéologiques et j'ai eu la volonté de créer un parallèle avec la photographie contemporaine et j'ai rencontré le travail de Flore qui a justement, au travers de plusieurs série travaillée sur l'Égypte, et donc pour c'était une évidence d'inviter cette photographe ici à Amiens.
Et pourquoi la photographie en particulier ?
Justement parce qu'elle nous permettait d'ouvrir en fait les perspectives sur le pays qui a abrité les objets dont elles proviennent. Donc pour le spectateur, ça permet d'avoir à la fois des connaissances sur la civilisation égyptienne avec les objets, comment vivaient ces personnes il y a 5000 ans, mais aussi comment le pays est aujourd'hui et comment aussi il a été représenté en photographie dès le 19e siècle.
Et du coup, je me tourne vers vous, Flore.
Je suis une artiste qui utilise essentiellement la photographie comme médium, mais pas seulement, puisque j'utilise aussi la gravure et depuis peu la photographie en lien avec la porcelaine. Je suis représentée par plusieurs galeries dans le monde, et en particulier en France par la galerie Clémentine à la Ferronnière. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu deux prix assez significatifs autour du travail de Marguerite Duras. L'un qui est le prix de l'Académie des Beaux-Arts, Marc-Ladré Lacharrière, et l'autre qui est le prix Nadar, qui est le prix du plus beau livre de l'année qui a été fait, que j'ai eu pour cette série. Et mon travail est très graphique et mes questionnements photographiques sont très axés d'une part sur la matérialité de l'image et d'autre part sur le lien entre la photographie, je pense, et la mémoire, et quelles sont les particularités, moi je dis les pouvoirs de la photographie qui la différencie des autres arts plastiques. Tout en ayant vraiment cet âge bientôt canonique. J'aime la photographie contemporaine. C'est-à-dire, pour moi, un artiste contemporain, c'est un artiste qui a une connaissance du médium depuis sa création que j'ai, jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière innovation possible. J'ai la chance d'avoir un compagnon extrêmement jeune qui me maintient tout à fait au courant des dernières inventions. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, la photographie, c'est qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je peux faire des photos avec mon téléphone, je suis équipée en numérique, je regarde l'intelligence artificielle comme un chat regarde un oiseau, je suis très intéressée. C'est une évolution. Je pense que c'est intéressant pour être libre dans sa tête, d'embrasser l'ensemble des possibles. Moi, en tous les cas, mes connaissances techniques sont assez conséquentes. J'essaie de les réactiver constamment parce que à l'intérieur de ma tête, il se passe plein de choses. J'ai plein d'images que je voudrais arriver à partager avec d'autres gens pour qu'ils les regardent et qu'ils en soient touchés. Et ce qui m'intéresse, c'est le moyen de le faire. Il n'y a pas de limite pour moi entre l'argentique, les tirages qu'on dit historiques, cyanotype, platine palladium, estampe. Il n'y a pas de limite. Pour moi, c'est la photographie. Et j'adore ça.
Et donc, à travers votre exposition, vous avez voulu montrer, enfin, raconter votre enfance, en quelque sorte. Pourquoi cette idée de montrer votre enfance à travers la photographie ?
Plus ça va, maintenant j'ai une soixantaine d'années, et plus ça va, plus il me semble que dans les pouvoirs de la photographie, il y en a un qui est très subtil, et qui est que le public, dont je peux être public moi-même, hein, le public, quand il voit une photographie, il pense instinctivement que c'est vrai, dans le sens que c'est lié au réel. Or, la différence entre le réel et le vrai est merveilleusement subtile. Et ça m'intéresse beaucoup actuellement parce que j'arrive à faire des photos de mes souvenirs qui s'estompent. Et ces souvenirs qui s'estompent vont disparaître, mais les images que j'en fais, non seulement vont perdurer, et aujourd'hui je crois qu'on parle que de la question de la mémoire et de l'immortalité, et parce que c'est en lien aussi avec la fragilité de l'être humain, je pense que ça parle beaucoup de nous tous, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ce qui est assez troublant et merveilleux, ils sont des souvenirs d'autres gens. C'est merveilleux de faire des images qui sont des souvenirs d'autres personnes. Et je pense que faire la photographie me permet, en particulier pour cette série égyptienne, de garder mes souvenirs et de les partager.
Je vois à travers vos photos qu'elles sont assez floues. Il y a un petit peu l'image... Enfin, ça, on dirait un rêve. Donc comment... C'est voulu ou...
Oui, vous avez raison, c'est voulu. Parce que peut-être qu'entre le rêve et le souvenir, la représentation mentale est à peu près la même. Je crois peut-être que ce que nous rêvons, c'est des souvenirs ou c'est des projections. Et si je veux que vous puissiez accéder à ça comme étant ma mémoire et pas comme étant le réel... Le flou est une des possibilités qu'offre la photographie de vous faire croire ça. Et je pense qu'il y a un moment où la photographie, c'est de l'ordre de la prestidigitation ou, je dirais, de la représentation théâtrale. Il faut qu'on soit deux à y croire. Et donc, moi, je donne mon meilleur pour vous donner la possibilité d'y croire. Ce sont des étapes longues qui au début, c'est aller ailleurs, aller vers ailleurs. J'aime le monde, j'aime aller dans le monde. Mais comme je ne suis pas non plus une photographe de voyage, mais une photographe de l'intériorité, ben, il y a aussi toute cette souffrance inhérente qui est de marcher dans le monde à la recherche de quelque chose qui fait un écho si juste en vous que ça peut faire une image sincère. Et là, il y a beaucoup de travail et beaucoup de déceptions. On ne peut pas, voilà. Surtout si votre monde intérieur, vous avez un faible pour 100 ans avant, ou peut-être, moi, je voulais arriver à Alexandrie en bateau, comme Jean-Philippe Lauer, avec mon sautoir, voir comme ça, ou simplement, j'aurais voulu, Maxime Ducamp, Félix Bonfils, j'aurais voulu... découvrir, être la première photographe à découvrir le Sphinx. Et après, ces peines qui sont que, par exemple, il y a une photo de Félix Bonfils qui montre la pyramide de Gizeh, les pyramides de Gizeh se réfléchissant dans le Nil. Mais moi, je l'ai cherché pendant des matins et des matins. Mon compagnon est là qui peut en témoigner. J'en ai pleuré dans le taxi de retour des jours et des jours avant de m'apercevoir que j'étais née trop tard, parce qu'il y avait eu le lac Nasser et le barrage, et que donc c'est des images qu'on ne verrait plus jamais. Donc il y a... Et ensuite, il y a tout le travail de tirage pour que cette impression ténue que j'ai d'être en contact avec le monde arrive jusqu'à vous. Ça prend du temps. Mais c'est bien le temps, dans un monde qui, me semble-t-il, va de plus en plus vite. J'ai peur de passer pour une dinosaure, moi, à mon âge. Mais c'est un monde qui, me semble-t-il, va de plus en plus vite, où les choses sont banalisées. Moi, j'ai écrit à mes amis, à la plume, je mets un timbre dessus, depuis le Sri Lanka jusqu'au Maroc. J'aime les conversations internationales, j'aime prendre le temps du dialogue. Et donc, le fait que la photographie, ça soit un médium qui puisse être lent, ça fait partie du plaisir, je crois.
Et donc, ça vous a pris 2 ans à faire ? Enfin, 2 ans pour prendre toutes les photos ?
Oui, voilà, je suis partie. Il y a... Je le découvre au fur et à mesure, malgré tout, des saisons dans les pays du monde et des saisons où la lumière est plus belle. Et donc, la lumière très belle, elle est en Égypte, elle est dans notre hiver à nous. Et après, elle est plus dure. Et donc, on y est allé 2 fois, vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois, en 2 années, 2 hivers.
À quoi ressemblaient vos journées quand vous alliez prendre les photos ?
Alors, il existe un très joli petit film qu'Adrienne Claré a réalisé de ma deuxième visite. Alors, on voit bien. Moi, je me lève à 4h30 avec le muezzin du matin. Et en Égypte, il est particulièrement beau. C'est une façon de s'ouvrir au monde. Mais là, il fait nuit noire. Et je ne peux pas cacher que c'est quand même très, très, très dur. Donc, c'est affreux. Le réveil sonne, tu as le muezzin et tu ne veux pas y aller certains matins. Tu dis non, ce n'est pas possible, c'est trop dur. Mais pour moi, il faut vraiment que j'arrive sur le motif, on dirait ça, avant que le soleil se lève pour avoir cette lumière complètement laiteuse qui permet que les images, elles soient atemporelles et qu'elles ne soient pas touristiques. Parce que dès qu'on fait une image en couleur, c'est la complexité, je pense, de la couleur, du traitement de la couleur. On n'entre plus dans le vrai, on entre dans le réel. Et en Égypte, ça va très, très vite. Donc, je travaille à peu près de 6h du matin, ça dépend des matins, de 6h du matin jusqu'à 9h. Après, la lumière devient trop dure. Donc, j'ai ma journée pour faire autre chose, lire, me cultiver, écrire. Voilà, et ensuite, elle va redescendre très très vite, à peu près en 1 heure, on a un très très beau soleil qui se couche, et là je recommence à travailler, et le reste du temps, j'essaie d'être présente au monde. Mais c'est pas que je la préfère, mais y a une estampe de Bastet qui est là, mais je viens de la faire. Je viens de la faire sous cette forme, parce que je fais de l'estampe depuis pas tellement longtemps, mais je viens de la faire sous cette forme pour ici. Et elle me donne encore une joie naïve. Chaque fois que je vois ce Bastet, je me souviens quand je l'ai découvert, là où il était, comment j'étais heureuse d'être là, le privilège que ça représentait. Et je trouve très très, je trouve cette statue très belle et je trouve ça lui rend justice. Voilà, mais c'est enfantin, vous savez, c'est la dernière image. Ça donne toujours du plaisir.
Et dans toute la collection, est-ce qu'il y en a une qui représente le plus votre enfance ?
Oui, les photos d'Alex Memories. Je pense les photos, c'est le grand format qui est là avec juste sa colonne, sa structure et sa mère, son horizon un peu irrégulier. C'est celle où il y a le moins d'informations et partant, et je peux me rappeler tous les moments. Et aussi, ma galeriste au Caire, c'est son enfance à elle aussi. Et ça m'émerveille qu'en ne nous connaissant pas enfant, on est un lieu d'enfance commun. Mais j'aime bien les images où il n'y a rien. Ma sœur était vraiment, vraiment petite quand elle était là-bas. Donc je pense que ce qu'elle reconnaît, c'est ce qu'on lui en a raconté. Et peut-être un souvenir de glace à la vanille qui tombe dans le sable ou un truc comme ça qui arrive aux enfants qui grandissent au bord de la plage.
Et justement, toutes ces photos qui représentent votre enfance, elles montrent plus des paysages et pas, par exemple, bon, c'est un peu basique, on va dire, mais pas des jouets ou des parcs, etc. C'est plus des paysages.
Elles représentent une lumière, je crois. Je crois que plus que le sujet, ce que j'ai essayé de retrouver quand je suis revenue, c'était un sentiment de lumière. Cette lumière-là particulière, qui n'y est pas tout le temps, parce qu'on y était en mai, elle n'y était pas, et j'étais blessée de ne pas la voir. Et c'est plus ça. Mais j'ai la quête, comment dire ? Et je pense que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas grandi au bord de la mer de comprendre ce que c'est, mais c'est quelque chose qui est très fort. C'est, en tous les cas, pour moi, C'est cette lumière et cette eau, cette mer et cet ailleurs. C'est ailleurs. C'est quand on grandit dans un pays étranger. Après, j'ai passé du temps au Maroc aussi et j'ai fait un travail sur le Maroc, pareil, de souvenirs. Ce qu'on emporte, c'est pas sa poupée, parce que sa poupée, on va la ramener chez soi. Moi, en tous les cas, ce que j'ai emporté, c'est cet amour de l'ailleurs, cet amour du Moyen-Orient, cet amour de la langue. Je suis quand même quelqu'un qui a appris l'arabe en troisième langue, même si je ne le parle plus ni rien. Et c'est les odeurs, c'est beaucoup plus vaste. Et la Méditerranée a une odeur, hein, et voilà. Et elle, je ne peux pas mettre ça dans une poupée, parce que je crois que vous verriez la poupée. Tandis que là, j'espère que ce que vous partagez, c'est comme un air marin qui serait traversé par des fleurs, des odeurs de fleurs blanches, des jasmins. Et c'est ça que j'aimerais qu'on partage. Et peut-être aussi, comme disait Bénédicte, cette couleur d'albâtre, ce sable, cette chaleur, mais qui est une chaleur sèche, qui n'est pas du tout la chaleur moite, comme j'ai pu faire un travail autour de Duras en Indochine. Non, c'est une chaleur sèche avec de l'air qui devient rouge parfois, avec des particules brillantes, dorées à l'intérieur. Et mon enfance, elle est plus grande que ma chambre. C'est Bernanos qui a dit « Je voudrais vivre ma vie à la hauteur de mon enfance ».
Et donc, là, dans votre collection, il y a aussi des objets de la collection du musée. C'est vous qui les avez choisis. Donc, lesquels vous avez choisis et pourquoi ?
J'ai reçu une liste qui était longue, comme la liste des conquêtes de Don Juan. C'était merveilleux. Il y avait plein de choses merveilleuses dedans. Et j'étais comme une enfant, j'ai regardé tout ça. J'aurais voulu tout avoir, mais il fallait en laisser pour les collections de l'autre côté. Bon, donc j'ai choisi des pièces qui pouvaient évoquer des êtres humains pour qu'elles habitent des séries où, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. Parce que je ne photographie pas tellement d'êtres humains, parce que je trouve que c'est difficile que l'être humain soit atemporel. Alors, si je veux vous faire croire que vous avez été là de toute éternité, que nous y avons été ensemble dans un temps indéfini, c'est difficile s'il y a quelqu'un qui passe en jean avec écrit Nike sur son t-shirt, c'est compliqué. Et là, j'ai la chance qu'il y a des êtres humains, ils habitent mes photos, et en même temps, ils nous parlent d'une Égypte telle que moi je l'aime, c'est-à-dire éternelle.
Est-ce que vous pouvez nous en décrire une ?
Une pièce ?
Oui.
Je vais prendre celle de Dirsoudière. Hier, quand on a, avec Maya derrière, on a fini d'accrocher, j'avais l'impression que dans la petite narration de la vitrine, il manquait. C'était comme une. On a accroché, c'est comme une partition, peut-être parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur Chopin, mais on a fait un accrochage pas du tout linéaire comme ça peut se faire, mais plutôt un accrochage de vitrine, voilà, assez rythmé, je crois. Et. Quand je le voyais, j'avais l'impression qu'il y avait un manque, un vide. Donc j'ai eu cette chance que Agathe m'a amenée dans les réserves où je pouvais choisir. Voilà, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, il faut le dire. Et je trouvais que cette urne funéraire, elle, d'abord, je trouve qu'elle a une forme de perfection. Enfin, elle est d'une beauté absolue de forme. Quand je me dis qu'il y a des milliers d'années, des gens y faisaient ça, je me dis qu'on n'a pas tellement progressé, somme toute. En tous les cas, ils en savaient déjà autant que nous sur la matière et comment ils utilisaient leurs 10 doigts. C'était assez beau. Mais en même temps, elle avait cette noirceur que je dirais étoilée de par la qualité de pierre que c'est. Et c'est une funéraire très luxueuse qui a été choisie, cueillie, retrouvée, je ne sais pas comment on dit, dans la Vallée des Rois. Et je trouvais qu'elle faisait un pendant très juste avec la photo en noir et blanc, de par sa lumière et ce qui s'en dégageait, qui est une photo de la Vallée des Rois. Je trouvais que c'était une manière assez subtile, c'est une sorte de private joke, je ne sais pas comment on dit ça. J'aime bien les... Comment dire ? J'aime bien quand la pensée est complexe et quand certaines personnes peuvent quand même la comprendre. Enfin, une pensée complexe qui n'est comprise par personne, ça n'a aucun intérêt. Mais j'aime bien que ça soit complexe, mais qu'il y ait des signes et que ces signes puissent être entendus de certaines personnes. Voilà, donc cette pièce, elle est en écho avec la Vallée des Rois qui est un peu plus loin.
Vous êtes exposée au musée de Picardie. Est-ce qu'il y aura d'autres musées où c'est prévu que vous exposiez ?
Eh bien, je suis une artiste très, très chanceuse. Bah, ouvrir une exposition au domaine de Nohant chez Georges Sand pour le 150e de la mort de, pour le 150e de la mort de Georges Sand. Et à l'intérieur de cette maison, il va être montré un ensemble autour de la présence de Chopin, qui était donc, a été un de ses amants, qui est une série sur laquelle je travaille depuis 2 ans. Et ça sera la première fois que j'exposerai dans une maison habitée. Donc autant là, je pense qu'on a vraiment pris en compte dans l'accrochage où on était, avec quoi ça dialoguait. Autant à Nohant, j'ai vraiment fait attention de ne pas rentrer en dissonance avec le lieu, qui est donc un lieu qui est une maison bourgeoise, qui a été une maison d'artiste, mais qui est meublée avec de la vaisselle, des tableaux déjà, et de rentrer là-dedans avec harmonie. Et ensuite, l'année prochaine, j'exposerai au Musée de la vie romantique un travail dont le sujet me plaît énormément, qui est amitié romantique. Parce que je trouve que l'amitié romantique, dans ce sens des échanges entre médiums, des échanges entre artistes, c'est quelque chose qui continue d'exister et qui est extrêmement précieux. Donc mes recherches, mes préoccupations actuellement sont axées sur ces amitiés romantiques.
Bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
En attendant les autres expositions, je rappelle que celle-ci, Égypte éternelle, est actuellement visible dans les sous-sols du musée de Picardie jusqu'au 3 janvier 2027.
D'écouter Elf Return d'Adrian Lenker. C'est toujours Info Club Sandwich. Pour cette deuxième partie de l'émission, je te laisse la parole. Malik, tu nous expliques pourquoi c'est important de ne rien faire.
Et oui, merci Mouna. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de rien faire, comme tu l'as dit. Et je précise, aucun rapport avec le travail que m'a demandé cette chronique. J'ai choisi ce sujet car il me semble central, surtout aujourd'hui, à l'ère de la surstimulation et de l'hyperdisponibilité. Des mots très compliqués, principalement causés par nos appareils connectés. Alors pour commencer, j'aimerais vous faire une petite expérience de pensée. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous n'avez rien fait. Je parle pas de regarder son téléphone, écouter de la musique ou vous repasser en boucle les mêmes pensées. Je parle d'un moment léger où vous cessez d'être dans l'action constante pour vous concentrer sur le présent. Et il y a de grandes chances que ça remonte à longtemps. Mais bon, peut-être que je vous apprends rien et que mon propos n'est pas de vous convaincre à faire du yoga. C'est un peu plus simple que ça. Et rien de mieux qu'un exemple pour illustrer mon idée. Hier, midi pile s'affiche sur mon téléphone. Mon estomac se réveille en sursaut et me supplie à sa manière d'aller manger. Je vais alors au restaurant universitaire, seul. Une fois mon plateau rempli, je choisis d'aller m'asseoir à une table vide, éclairée par la lumière du soleil. Je sens alors la chaleur sur mon visage et mes yeux se rivent sur la poche droite de mon pantalon. J'ai le réflexe de sortir mon téléphone, mais je me stoppe. Je commence alors à manger sans distraction extérieure. Je sens mon corps qui se détend peu à peu, malgré tout le monde autour de moi. Je me surprends à entendre une conversation de deux filles derrière moi parlant du fonctionnement des prisons, et c'était intéressant. Et devant moi, j'observe les personnes seules, en groupe, sur leur téléphone. Une heure plus tard, je sors du restaurant et je me sens léger. Et ce sentiment n'a rien d'une coïncidence. C'est que je n'avais simplement rien fait de particulier. Concrètement, ne rien faire diminue le stress, améliore la créativité, la mémoire ainsi que l'attention. Le simple fait de prendre 5 minutes pour s'allonger sur son lit après une journée de travail permet à notre système nerveux de récupérer de sa stimulation constante lors de notre journée. Selon Damien Brévert, chercheur en psychologie cognitive, le simple fait d'aller par exemple courir sans ses écouteurs active le mode par défaut de notre cerveau, laissant place à nos pensées introspectives, à l'imagination et à la planification future. De quoi développer notre créativité et nos prises de décision. Et aller manger dans une cantine seule, sans stimulation extérieure, participe à la régulation du stress en permettant à notre cerveau de se reposer. Alors, il existe autant de manières de ne rien faire que d'être humain sur Terre. Et cultiver ce type de moment est important pour notre propre développement. Le fait d'être constamment en train de faire quelque chose est parfois une manière de fuir sa réalité par angoisse, peur ou ennui. Mais d'expérience personnelle, affronter certaines de ces situations en ne faisant rien m'a souvent surpris. Car vivre l'instant est souvent plus agréable que ce que l'on pense. D'ailleurs, aux Pays-Bas, ne rien faire, c'est un concept qui a son propre nom, le Niksen. Niks signifiant littéralement le mot rien. Il consiste par exemple à s'asseoir sur une chaise ou regarder par sa fenêtre. Dit comme ça, ça fait pas rêver, mais ça revient exactement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors en tout cas, moi je vous invite à tenter l'expérience, et c'est simple parce qu'il suffit de rien faire.
Merci Malik. Pour finir la semaine, on passe maintenant aux actualités du week-end. Lina, tu peux nous en dire plus ?
Je vous ai trouvé des actualités pour profiter d'un week-end culturel bien chargé. Du 3 avril au 31 mai, le printemps de l'art déco fait son retour, une occasion de découvrir le patrimoine architectural et décoratif à Amiens. Ce 18 avril, de 15h à 16h15, un parcours urbain qui permet de découvrir les façades géométriques et les ornements stylisés dont le quartier Henriville vous est proposé. Avec un tarif adulte de 3€, la réservation se fait par mail à patrimoine@amiens-metropole.com ou au 03 22 22 58 90. Plein d'autres événements, visites et expositions sont prévus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.amiens-tourisme.com. Si vous êtes à la recherche d'une sortie pour ce week-end, la Maison Jules Verne vous ouvre ses portes lors d'une visite guidée, c'est ce dimanche 18 avril, de 15h à 16h. L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans et le tarif adulte va de 5 à 25€. D'autres dates de visite sont déjà disponibles le 22, 25, 26 et le 29 avril. Et toujours ce dimanche, le musée de Picardie vous emmène à la découverte du radeau du Lamidus. Lors d'une visite, l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans. 3 créneaux vous sont proposés, 14h30, 15h30 ou 16h30. Les réservations sont à faire directement auprès du musée. C'est tout pour les actualités du jour. Amusez-vous bien ce week-end.
Merci beaucoup Lina. Info Club Sandwich, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Et comme toujours, on vous laisse en musique avec un titre de Snow Patrol Chasing Cars. En vous souhaitant un merveilleux week-end de beau temps et à lundi pour une nouvelle émission d'Info Club Sandwich.
To it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay, waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me, just forget the world, forget what we're told, before we get too old, just show me your bursting into light. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They're all I can see. I don't know where, confused about. Just lay here, would you lie with me, just forget the world?